Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je le sens bien, pas trop mal, ça devrait bien se passer je pense.
Ici c'est Paris. Hein.
Ici c'est Paris, les supporters y croient, le Real de Zidane débarque au Parc des Princes. Nous y allons dans un instant et on demandera à Jean-François Pérez si le PSG a vraiment sa chance.
Dans l'actualité ce soir, les journées du patrimoine sont-elles menacées par la crise sociale ? Retraite, climat et gilets jaunes s'invitent à Paris samedi. Inquiétude sur la sécurité des monuments, c'est notre enquête ce soir sur Europe 1.
Le choc au Havre, une jeune femme de 27 ans tuée par son conjoint devant ses trois enfants sur le parking d'un supermarché.
Pour moi, franchement, ça me fait mal. C'est la colère qui commence à arriver.
Nouveau féminicide qui a mis des centaines de personnes dans la rue aujourd'hui.
Et puis, le diabète qui recule en France, les chiffres baissent. Pourquoi ? Nous appelons un médecin, c'est notre coup de fil ce soir.
Enfin, allez de retour, Céline Dion.
Courage, don't you dare fail me now.
Courage, c'est un nouveau titre en anglais, bientôt un album et une tournée mondiale annoncée comme gigantesque. La bourse de Paris à l'équilibre, plus 0,09% à 5620 points ce soir.
Et la tendance météo, c'est avec vous Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Une sensation de fraîcheur demain et de la pluie, toujours dans le sud-ouest.
Anissa, le détail après le journal de 19h.
Il commence par le plus dur, les Parisiens, le plus gros morceau, le Real Madrid, pour lancer la saison du PSG en Ligue des Champions. Mais quelle affiche ! Allons tout de suite au Parc des Princes. Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir Sébastien.
Est-ce que la température commence à monter ?
Alors pour le moment, il faut bien l'admettre, hein, c'est encore assez calme aux alentours du Parc des Princes, mais ça va bientôt monter en décibels. J'ai croisé quand même quelques supporters parisiens aux abords du Parc des Princes. Des supporters, il faut le dire, assez partagés à quelques heures du coup d'envoi.
Pas facile. Le Real Madrid, c'est un nom, c'est une histoire. On a pas mal de blessés. Il va falloir être rigoureux, prudent, pas tomber dans la précipitation, mais en même temps enflammer le match.
Ça peut le faire ?
Ouais, ça peut le faire à domicile, ça peut le faire.
Je le sens bien, pas trop mal. Ça devrait bien se passer, je pense. On est toujours bon contre ces équipes-là en phase de groupe, donc je pense que ce soir, ça devrait passer.
Ici, c'est Paris. Hein. J'espère qu'ils vont gagner. Hein. Même si on n'a pas les grandes stars ce soir, ils ont intérêt à tout donner sur le terrain.
Alors en tout cas pour cette affiche galactique, il y aura du beau monde dans les travées du Parc des Princes et un supporter un peu particulier puisque l'émir du Qatar, Tamim Altani, assistera à la rencontre. La dernière fois qu'il était venu pour voir un match du PSG, ça s'était pas très bien passé. C'était lors du 8e de finale retour face à Manchester United, on le rappelle, une défaite du Paris Saint-Germain 3-1.
Julien Froment au Parc des Princes et on vous retrouve en fil rouge hein, tout au long de cette soirée avec nos grandes voix, entre autres à partir de 18h30.
Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir à tous.
Vous allez vous aussi nous faire vivre cette affiche. Ça fait 25 ans que le PSG n'a pas battu le Real. Est-ce que sans Mbappé, sans Neymar, sans Cavani, les Parisiens ont vraiment une chance ? C'est quand même l'adversaire le plus redoutable.
Ça c'est clair. Alors oui, ils ont une chance les Parisiens, mais il va falloir faire fi de ce chiffre, 50. Le PSG fête cette année ses 50 ans, c'est l'un des clubs les plus jeunes de l'élite européenne. Pendant ce temps, le Real Madrid entame ce soir sa 50e campagne européenne. Le Real, c'est le club le plus titré du monde, 13 Ligues des Champions déjà remportées, alors que le PSG court désespérément après sa première. Un entraîneur mythique en France et en Europe, Zinedine Zidane, une équipe redoutable malgré les absences pour blessures ou suspensions de joueurs importants, dont le dernier Ballon d'Or, Luka Modric, et une attaque de feu, Gareth Bale, le Gallois, et deux vieilles connaissances, la star belge Eden Hazard, formée à Lille, et le français Karim Benzema, indésirable avec les Bleus, mais si fort avec le Real. De l'autre côté, vous l'avez dit, pas de Neymar suspendu, pas de Mbappé, pas de Cavani. Neymar sera d'ailleurs en tribune, petite info, il sera dans sa loge ce soir avec papa, ses amis, etc., pour se régaler du spectacle. Mais des recrues attendues sur la pelouse, Icardi notamment, le buteur milanais, et l'ancien gardien du Real, Keylor Navas, qui vient d'arriver à Paris. Navas, le rempart espéré pour rallier Istanbul et la finale de la Ligue des Champions en mai prochain. Mais avant cela, il y a 12 matchs à gagner.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. On vous laisse rejoindre le parc, un soirée spéciale sur Europe 1.
Un petit peu de chemin à peine. On sera aussi avec Lionel Rousseau en public depuis le studio Belmar. Le match en direct, coup d'envoi 21h. Et juste avant l'avant-match avec vous, entre autres, Jean-François, nos invités, nos consultants, nos éditorialistes.
Il est 18h04 sur Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Voilà un rendez-vous que vous appréciez peut-être et qui est plébiscité chaque année. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Et l'inquiétude grandit quant à leur sécurité.
Beaucoup d'interrogations qui remontent jusqu'aux plus hautes autorités. Information Europe 1, car plusieurs manifestations sont organisées dans la journée de samedi à Paris, dont un grand rassemblement de gilets jaunes. Écoutez la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Le même jour, il y a plusieurs appels à manifestation. Une mobilisation, je crois, sur le climat, une mobilisation sur les retraites, et que, assez naturellement, compte tenu des tensions qui ont existé au cours de manifestations précédentes, toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité de ces lieux où de très nombreux Français viendront découvrir des joyaux de notre patrimoine architectural.
Voilà, il faut lire entre les lignes, mais on comprend bien qu'il va falloir prendre des mesures de sécurité. Diane Chenouda,
oui.
Vous nous révélez
Bonjour.
Ce soir votre enquête Europe 1. Ça veut dire qu'il va y avoir des ajustements, voire des monuments fermés par précaution?
Oui, c'est possible, Sébastien. Est-ce que l'on sait pour l'instant? Eh bien, c'est que le ministère de l'Éducation sera fermé, mais il ouvrira peut-être à titre exceptionnel pour quelques groupes d'élèves. Le ministère de l'Agriculture aussi sera fermé. En fait, chaque institution, chaque monument est en train d'évaluer la situation et la décision de fermer ou pas revient à chaque établissement. Vous voyez, j'ai à la main une première liste des lieux qui ont déjà pris les devants. Alors, l'Élysée sera ouvert, mais sur inscription, et c'est déjà complet. C'est la première fois qu'on vient s'inscrire pour les visites à l'Élysée. Une décision prise il y a 3 semaines pour réguler les flux. Même chose à l'Assemblée nationale. Les visites se feront sur inscription. Idem pour les ministères de l'Intérieur et des Armées. La Grande Loge de France, elle, sera fermée. Le Petit Palais et le Grand Palais, qui se trouvent habituellement sur le parcours des manifestations des Gilets jaunes, eh bien, annulent leurs manifestations extérieures. Mais ils maintiennent les visites à l'intérieur. Enfin, des monuments comme l'hôtel de Noirmoutier, rue de Grenelle, ou la chambre de commerce et d'industrie, ou encore le musée de la franc-maçonnerie, eh bien, ces lieux-là seront fermés samedi et n'ouvriront que dimanche.
Les précisions et l'enquête de Diane Chenouda du service culture d'Europe 1.
Avec ces révélations, merci à vous. Au moment où les Gilets jaunes se remobilisent, un autre débat ressurgit, Sébastien. Celui de la taxe carbone.
Et cette taxe écologique sur les carburants, notamment, dont l'augmentation a été abandonnée pour tenter justement de calmer la colère des Gilets jaunes l'hiver dernier. Sujet explosif. Aujourd'hui, le gouvernement a à nouveau écarté toute hausse, même pour 2020. Et cela alors qu'un rapport recommande le contraire. Carole Ferry, c'est la Cour des comptes qui s'en mêle.
Pour la Cour des comptes, le diagnostic est clair. Si la France veut atteindre ses objectifs climatiques, elle ne pourra pas faire l'économie d'une hausse de la taxe carbone. Alors le gouvernement, en effet, l'a redit, pas de hausse envisagée, en tout cas en 2020. Mais la brèche est ouverte pour la suite. Pour la Cour des comptes, il faut non seulement rétablir la taxe carbone, mais aussi l'appliquer à tous les secteurs polluants pour qu'elle soit mieux acceptée. Elle recommande donc de supprimer les dérogations, d'en finir avec les exonérations, les réductions et autres remboursements accordés aux transports maritimes, aériens ou routiers. Il existe aujourd'hui 26 dérogations au total, évaluées à 10 milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État. Concernant les particuliers, là aussi, il faut tenir compte de l'acceptabilité, alerte le président de la Cour, Didier Migaud. Il faut en contrepartie, dit-il, des mécanismes de compensation dirigés vers les ménages les plus modestes. Surtout, précise-t-il, il faut éviter les usines à gaz, être plus clair sur les objectifs et sur l'utilisation qui est faite des recettes.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Et une ONG aujourd'hui à l'Observatoire du réseau Action Climat estime que la France reste encore loin d'atteindre les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés au moment de l'accord de Paris. En termes d'émissions de CO2 notamment, les 9 indicateurs principaux sont au rouge.
Des problèmes de sécurité identifiés, Sébastien, sur 6 réacteurs en activité dans nos centrales nucléaires.
C'est une filiale d'EDF qui est pointée du doigt pour le non-respect de certaines procédures concernant des soudures. EDF estime qu'il n'est pas nécessaire pour autant de mettre ses réacteurs à l'arrêt. On y reviendra dans le journal de 19h.
Deux semaines après le Grenelle, vous en souvenez, consacré aux violences conjugales, la secrétaire d'État Marlène Schiappa se réjouit d'une baisse du nombre de féminicides.
Oui, seulement, entre guillemets, 2 féminicides ces 2 dernières semaines contre 1 tous les 2 ou 3 jours auparavant. Chiffre avancé par le ministère sans qu'on puisse évidemment dire si c'est lié ou pas. D'autant qu'un nouveau drame nous a marqué ces derniers jours. Johanna, 27 ans, tuée, poignardée par son mari lundi devant ses 3 enfants sur le parking d'un supermarché.
Ça s'est passé au Havre et cet après-midi, plusieurs centaines de personnes ont défilé en sa mémoire. Marche blanche que notre reporter Hélène Terzian a suivie aux côtés de la mère de la jeune femme.
Pour moi, franchement, ça me fait mal. C'est la colère qui commence à arriver.
En tête de cortège, Isabelle tient dans ses mains une photo de sa fille entourée de ses trois enfants. Ce n'est que très tard qu'elle a su que Johanna était battue par son ex-conjoint.
C'est quand elle s'est jetée par la fenêtre. C'est là qu'après, tout doucement, elle m'a expliqué deux ou trois trucs et puis je ne savais pas. Vrai.
Il y a plus d'un mois, Johanna avait sauté par la fenêtre de son appartement pour échapper au coup de son compagnon. Blessée, elle dépose alors plainte auprès de la police. Plainte classée sans suite 3 jours plus tard. Laura avait déjà alerté la police pour son amie disparue. Elle est aujourd'hui révoltée que ses appels à l'aide n'aient pas été entendus.
Ils n'ont jamais daigné se déplacer, sauf la fois où elle a sauté, parce que tellement de gens ont appelé, ils étaient obligés de se déplacer. Mais le reste du temps, non. Ils avaient d'autres choses à faire, il y avait plus grave, ils n'avaient pas le temps. Il avait décidé de la tuer, il avait déjà commencé le travail, il allait le finir et la police n'a pas pris ça au sérieux. En 3 jours, c'était classé sans suite. Je suis désolée, on saute pas par la fenêtre par plaisir.
Encore combien de Johanna faut-il pour se faire entendre, poursuit-elle, avant de déposer une fleur là où son ami a été tué lundi dernier.
Reportage signé Hélène Terzian au Havre pour Europe 1.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, le diabète qui recule. Mais pourquoi ? Nous appelons le docteur Boris Ancel, c'est notre coup de fil ce soir.
Et puis on vous fera écouter le nouveau Céline Dion, nouveau titre en anglais dévoilé aujourd'hui pour accompagner le lancement d'une tournée mondiale.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Nous ouvrons à présent notre dossier ce soir sur le diabète. 3 millions de Français de plus de 45 ans en souffrent. 12% des hommes de cet âge-là, 8% des femmes. Mais ce chiffre recule, Sébastien.
Oui, c'est nouveau, c'est pour ça qu'on a choisi de s'y arrêter. C'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir Boris Ancel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes diabétologue à l'hôpital Bichat à Paris. Santé publique France observe donc un recul du nombre de cas. Comment on explique ça ?
Je crois qu'il faut faire attention à la manière d'interpréter les chiffres. C'est vrai que ça donne une lueur d'espoir de voir une diminution du nombre de nouveaux cas de diabète. Mais attention, on n'a aucune explication qui permette de se rassurer et on ne peut pas exclure dans ce type de méthodologie des biais, à savoir est-ce qu'on traite toujours aussi bien les diabétiques, peut-être qu'on les traite moins, auquel cas on en détecte moins, ou encore d'autres biais. Donc derrière cette lueur d'espoir, il faut bien rappeler que le diabète, ça reste une maladie extrêmement prévalente en France. Et pour expliquer les choses, eh bien, il faut continuer à faire des analyses, voir est-ce que simplement on a davantage sensibilisé la population. On l'espère, mais il faut rester très prudent parce que les personnes les plus touchées par le diabète sont les personnes à faible niveau socio-économique et souvent ce sont ceux qui sont le plus mal informés, donc à confirmer.
À confirmer, mais néanmoins, ces 2 dernières années, le diabète avait tendance plutôt à augmenter à cause du surpoids. Il y a quand même un sentiment de tendance qui s'inverse, non ?
On espère que c'est une tendance qui s'inverse, mais je pense vraiment qu'il faut être prudent parce que, comme vous le dites, il y a une augmentation de la prévalence du surpoids qui, mathématiquement, est responsable d'une augmentation de la survenue du diabète. Donc, ça reste des chiffres vraiment difficiles à interpréter et à comparer avec les chiffres antérieurs. On espère qu'il y a cette lueur d'espoir, mais le message ce soir, c'est attention et continuons la prévention et l'aide pour le traitement des personnes diabétiques.
Voilà, des chiffres à confirmer. Merci beaucoup Boris Ancel, diabétologue à l'hôpital Bichat. Je signale également votre chaîne YouTube, l'émission Santé. Merci, bonne soirée.
Il est 18h14, la suite du journal sur Europe 1. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
L'actualité à l'international, c'est en Israël. Benjamin Netanyahou a perdu son pari. Il ressort même fragilisé des élections législatives organisées hier.
Les premiers résultats le placent à égalité avec son rival, l'ancien chef de l'armée Benny Gantz. 32 sièges chacun. Rémi Bossaron, ça veut dire qu'aucun des deux n'est en mesure ce soir de former un gouvernement.
Ah oui, c'est de nouveau l'impasse. Le scénario est le même qu'au mois d'avril avec lors des précédentes élections. Les deux hommes à égalité et chacun va bricoler des alliance pour montrer qu'il peut former un gouvernement, ce que Netanyahou avait échoué à faire la dernière fois. Alors encore une fois, le Premier ministre va se tourner vers les partis religieux et les partis de la droite radicale. Benny Gantz, lui, va courtiser les partis de gauche et les partis arabes, mais même avec ces alliances, impossible de les départager et tous les regards se tournent désormais vers un homme, Avigdor Lieberman, l'ancien ministre de la Défense, chef du parti nationaliste Israël Bétenou. C'est lui et ses 9 sièges qui sont courtisés par les deux camps. Il pourrait faire basculer cette élection. Problème, Lieberman ne voudra travailler ni avec les partis religieux, ni avec les partis arabes. C'est donc l'impasse, je vous le disais, reste une petite chance, peut-être un gouvernement d'union nationale. En tout cas, le président israélien a déjà prévenu, il n'y aura pas de troisième élection.
Et Rémi de Beaudesaron, merci à vous. On va y revenir sur cette situation très critique en Israël, très bloquée, avec Didier François tout à l'heure à 19h25.
Et pendant ce temps, on est très loin de l'apaisement dans le Golfe, puisque l'Arabie Saoudite estime ce soir que l'Iran est incontestablement derrière les attaques qui ont frappé des sites pétroliers le week-end dernier. L'Arabie Saoudite qui révèle des débris de missiles, de croisières. L'ONU et la France vont envoyer des enquêteurs. Donald Trump annonce sur Twitter un nouveau durcissement des sanctions contre l'Iran. On termine en musique,
allez,
Nathalie ?
On y va.
Allez.
Elle est là.
Courage, don't you dare fail me now.
Vous avez reconnu Céline Dion ? Nouveau
Céline.
Titre révélé ce soir, Courage, courage en anglais. Un nouvel album attendu pour le 15 novembre et une tournée mondiale lancée ce soir au Québec. Une soixantaine de dates en Amérique du Nord et peut-être ensuite en Europe. On l'écoute.
Don't you dare fail me now.
Figurez-vous qu'on a failli avoir un double album. Parce qu'elle avait tellement de chansons, Céline, elle n'arrivait pas à choisir. 34 chansons, il a fallu choisir. Je parle en québécois et en canadien. Et voilà, ça a failli être un double, ce sera un simple. Nouvel album, donc le 15 novembre, vous l'avez dit Sébastien, et vous revenez en chanson tout à l'heure.